point de repère. Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux, pour vous proposer une émission hors piste, où nous allons recevoir et écouter aujourd'hui une grande voix, celle de Luc Moès, moine de Maretsou et poète. Cette heure que nous allons passer ensemble sera rythmée par 10 de ses textes, extraits de son avant-dernier recueil, intitulé « Ambre » et paru en 2013. Le recueil suivant est à la veille d'une édition. Tous ces textes seront en résonance avec des chefs-d'œuvre de la grande musique de chambre. Schubert, Brahms et Beethoven. Alain-Louis et Lorenzo Godot prêteront leur voix et leur talent de diseur à cette entrée dans un univers tout bruissant de sonorités. Alain-Louis, bonjour.
Bonjour Pierre-Paul.
Lorenzo Godot, bonjour.
Bonjour.
Mais avant de les écouter, avant d'entrer dans cet univers, prenons quelques minutes pour faire connaissance avec l'auteur. Luc Moès, bonjour.
Bonjour.
Luc Moès, vous n'êtes pas à votre coup d'essai dans l'écriture, mais d'où vous est venue cette passion de l'écriture ?
De mon père. Il était un homme très communicant, curieux, novateur. Que de fois, au repas, entendant un mot qui l'étonnait, il demandait aussitôt « Dictionnaire, s'il vous plaît ». De ma mère aussi, elle avait une grande sensibilité, une immense déférence pour la beauté, où qu'elle soit. Et enfin, de mon professeur de français, le père Joseph Bolli, qui nous rapportait la sentence de Georges Semprin au retour des camps de concentration, le salut par l'écriture.
Luc Moès, vous avez derrière vous une grande pratique de l'écriture. 5 travaux accomplis, et je peux dire que cette écriture est un besoin profond. En fait, c'est un besoin vital pour vous, et j'insiste sur ce mot, un besoin vital. Dites-nous.
J'ai subi de grandes souffrances. Au-delà du permis, j'ai été déprécié par des aînés, humilié par des condisciples, manipulé par des supérieurs. J'ai échoué ci et là. J'ai dû me l'avouer crûment. Tout comme j'ai compris que je devais prendre les émerveillements amoureux au sérieux au lieu de les refouler. Une façon, en l'occurrence, consiste à les décrire avec la conscience la plus claire et droite possible. Il faut sans doute les accueillir, prendre du recul pour mieux les situer dans le temps et l'espace. Comment ? Sinon, justement, par les esquisses successives de l'écrit. Pensez à Pilate, contesté, qui disait déjà « Ce que j'ai écrit est écrit ».
Vous êtes moine et poète. Deux façons d'être chercheur de sens ?
Je ne me sens pas des jours moine et d'autres écrivains. Je suis les deux, tout uniment. Je cherche à reconnaître le mystère insondable de la vie, à nommer le réel comme Dieu me le demande dans la Genèse, au chapitre 2, verset 19. Tout être vivant devait ainsi porter le nom que l'homme lui donnerait. Ma vie est tout à la fois et fort heureusement marquée par le manque et par le comble.
Luc Moëz, vous avez le goût des mots et de leur musique. Votre écriture joue beaucoup sur les résonances, les assonances, sur les échos subtils qui existent entre les mots. Qu'apporte donc cette musique à votre écriture ?
Oh, de la gentillesse, de l'humour, de la grâce, pour alléger ce que l'énoncé des pensées peut avoir de pesant, de définitif, si on y met un grain d'obligeance, de finesse, pour que le texte vive au rythme des sens, du cœur, plutôt que de la tête.
Merci Luc Moëz. Nous allons donc écouter votre voix. Nous allons écouter la musique de votre cœur portée par Alain Louis et Lorenzo Godot. En résonance, j'ai invité, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, Schubert, Brahms et Beethoven avec leur musique de chambre. Nous allons écouter ce début du quatuor numéro 12 que j'ai trouvé très en harmonie avec notre auteur.
Extrait de Ambre de Luc Moëz, Essentiel. Bonne amie, c'est elle, la musique, qui ménage les charmes de la poésie, qui les souligne, les ordonne, les agence pour qu'en sa démarche, elle enchante le badaud, le séduise, l'achemine et le conduise à la fine fête des sens et de l'esprit ensuite, tout ravi. Elle agit en douceur, comme une huile sur un corps racorni, sur un marbre que le ciseau ne peut que tailler, sans jamais pouvoir polir et donner de l'aisance au mouvement qu'il impose à la pierre. Elle, la musique lui suggère du volume, une ampleur qui lui inspire un indicible soupir. Les mots, je les connais, ils sont trop fiers d'eux-mêmes pour engager une symphonie. Ils ont leur cant à soi, leur place à la feuille, leur dignité et leur notion des choses. Heureusement que la musique vient de billets les appeler à l'entrain, à la danse, sans qu'avec elle il ne faille pour autant tomber dans le refrain ou la ritournelle. Et si, mon bon ami, le regret te venait de n'avoir pu jusqu'à présent jouer d'un instrument, de produire de la musique, de créer des arpèges ou des pizzicati, sois en ton cœur réjoui, puisqu'avec les mots, tu peux assembler, rapprocher, rappeler, vibrer tout au long d'une période que la musique aura nappée de son voile, saccadé à coups de croche. Ce n'est pas pour rien qu'au poète, il lui faut prendre son luth. Certes, il est des choses de la vie qu'il faut accomplir, dire avec des fleurs, mais il y en est d'autres plus rares encore, éternelles, qu'il sied de servir dans une mélodie qui émeut même les anges. Tous les Olympes du monde se jalousent à cet égard. Grand Dieu, de Bacchus à Mercure, y compris les muses, bien sûr, tous aboutissent à la clé des champs pour célébrer de leur âme le supplément qu'ils se pâment. À l'heure d'aujourd'hui, les textes ont tout l'air de cités symétriques, alignés, rangés par étages et par les écrans davantage encore formatés. Des villes entières en béton, des structures métalliques, des constructions altières et jalouses, des sommets à jamais conquis, des mécaniques langagières sans grâce, quand, soudain, la musique s'immisce comme un fleuve entre les quartiers où elle se mire et s'ébaudisse. Oui, sers-nous, bon ami, des plats, des thèses, des poésies surtout, empreintes de musique, de madère ou de mousseline, en sorte qu'à l'ingestion de tes mets, on n'en garde que la mémoire des fumets, que les moindres amertumes se fassent la belle et ses sbignes. Vous tous qui usez des mots, sans assez discerner la musique qu'il recèle, vous seriez étonnés du contentement qu'il suscite quand il s'acoquine et se concerte pour qu'une mélodie advienne, si gracieuse sur ce sommier de messages inouïs.
De Schubert, c'était la fantaisie en ut mineur pour violon et piano, le deuxième mouvement.
Extrait de Ambre, de Luc Moës. Flamme. Certes, les lampions se sont éteints. Le jubilé est bien passé, consommé. Et pourtant, un seul de ces lumignons est resté obstinément allumé sur les étals de dévotion au fond de l'abbatiale. Comme c'est curieux! Un surcroît d'huile lui aurait autorisé? Mais dites-moi, à quelle fin? D'où lui venait ce trop-plein? Oh! On se souvient bien des vierges sages qui avaient veillé à se munir de précieuses réserves pour assurer la garde, en attente de l'époux à la porte du paradis. On se souvient aussi des sottes à la tête de Linotte qui, sans constance, n'avaient rien pour la durée, l'insistance. Mais revenons à ce lumignon obstiné. À la différence du bataillon de ses compagnons godiches, il est vrai, il s'était soucié, lui, de la mémoire. Il avait servi à fort bas et modeste régime, le genre consciencieux. Ainsi fit-il ses économies, sans rien perdre de l'actualité. Et, à présent qu'il brille encore, avec quel à-propos, il a le talent de ménager sa brûlure pour qu'on remarque non tant les détails, mais l'ampleur de l'espace et du temps consacré. À telle enseigne qu'on verrait, en guise de rêve, comme un champ de lune, des fantômes de verdure, des natures mortes jonchées de volumes muets, en quinconces, disparates, ou alors alignées en peloton citadin. Sans commentaire, sinon que cette pénombre inspirant à tout le moins le respect. Une prudence de n'en point dire plus, de n'y toucher, afin que d'anciennes furies ne viennent s'en mêler et brouiller l'aspect solennel et surtout serein de ce monde fidèle à tout craint. Et le lumignon brûlait toujours à discrétion, quand soudain, on en vint tout de même à désirer faire la fête en raison de cette consommation. Fallait-il garder l'univers en l'état? L'avoir bardé de persiennes et de modestie, n'était-ce pas trop de soin? On pourrait y lancer du souffle, non? Et que le tout s'embrase, grand Dieu! C'est alors qu'on verrait surgir des flammes, des ferveurs, des éclats surprenants sur la face des choses, demeurées trop longtemps en une sorte de nécrose. Ceci dit, cela tenait du rêve. Le lumignon, c'était sa façon, n'était fidèle et bon que dans l'intense. Il ne raffolait pas de grandioses des apparences. Aussi, quand l'on vint lui murmurer à la mèche qu'il se dépêche, il prit le parti d'entendre le propos, quitte à lui opposer ensuite une toute autre ordonnance. Il choisit d'être pris pour le gardien d'une flamme, à ce point ténue qu'on la prendrait pour celle d'une étoile, ou tout comme... même au paradis lointain, un point invisible aux humains. Oui, ils s'entichent des jours durant, du soleil pour leur teint, Mais lors des nuits d'inquiétude ou de chagrin, ils s'approchent de leurs fenêtres, espérant mirer, ne fût-ce qu'une luciole, une lumière pour demain dans leur cœur, en raison des rigueurs du prochain destin. À quelle fin donc le lumignon avait-il raison? C'est que dans la vie, il y a le choix entre la fulgurance ou l'endurance. D'aucuns ne jurent que par la première et font carrière pour s'en faire les pas peu fiers. Mais certains n'ont cure de ces gonflettes. Ils élisent au creux de leur cœur d'aller à l'univers avec une immense mais joyeuse patience, quérir jusqu'au ciron de sens. Qu'il les incite à la prodigieuse reconnaissance de la vanité des éléments, s'il ne s'y trouve aucun mouvement, un désir, une attente, un espoir même pour lui-même. L'amour n'a jamais brillé dans le multiple, puisque deux êtres, même parfois trois, n'ont de cesse de ne plus former qu'un seul. L'union de sagesse apporte, au travers des années, la vraie lumière d'une évidente kénose. Mais rien ne presse.
Extrait de Ambre de Luc Mouès. Nativité. J'irai me blottir à l'étable de mon cœur contre le grand vent et les injures du temps, des méchants, sachant depuis son passage qu'il restera toujours, au-dedans de toute crèche, une âme d'enfant. Je lui redirai avec force mémoire des appels à témoins, des litanies intimes, qu'elle m'a permis, la gamine, cette âme cristalline, de traverser tout mon passé de fortunes diverses, que je m'en sors à chaque jour plus vaillant avec mon âme d'enfant. Car les mages, eux, ils n'eurent l'âme que bonhomme. Voyez, il leur a suffi de voir le faisceau de l'étoile, le nimbe de lumière à la paille. Ils étaient comblés. Leur compte était tombé juste. Ils avaient vu leurs preuves. À leurs yeux, c'était parfait, complet. Il y avait la densité du lingot, la mire pour accommoder la mort inéluctable, la résistance, le tranchant d'un grain d'encens. Melchior l'a même fait remarquer du coude à Balthazar, des trois le plus gourd, mais Gaspard déjà n'en croyait pas ses yeux d'ébène. Ils étaient finalement à la chaîne, baba et satisfaits. Mais pour moi, je répète, c'était différent. Ah, mon âme d'enfant. Avec elle, il ne s'agissait pas tant de prouver et d'établir la vérité des histoires saintes, surtout, avec ou sans Jésus. Non. Car il m'a fallu la forger à la longue, l'armure de ma conscience, dès la plus infime origine, d'où j'ai pu fort heureusement dire « je », d'une conscience claire et droite, sans la tordre ni l'abîmer, m'en arranger quand il lui arrivait de se froisser. Aller résolument de l'avant, la prendre à cœur, comme le font toutes les âmes d'enfants. Grandir avec, sans jamais la délaisser. Vieillir? Qu'importe, puisqu'elle garde son âme d'enfant, la première place, l'oreille encline, copine, à l'écoute de mon cœur. Et à présent, l'âge aidant, je m'émerveille, reconnaissant les choix majeurs du Christ Jésus, mon Sauveur. Il est devenu grand roi de gloire maintenant. Si petit alors, en son innocence. Et pourtant, dès 12 ans, disons, sage d'entre les maîtres, il n'a pas vieilli d'un pouce, Jésus d'éternité. Non seulement il reviendra, je l'attends pour mon âme d'enfant, qu'il la bénisse, qu'il l'apaise, l'élargisse, lui garantissent les ors, les jardins, les fontaines, les tendresses, les soleils et le hall de son royaume.
De Franz Schubert, c'était un extrait du Quatuor numéro 15 en sol majeur, le premier mouvement par le Quartetto Italiano.
Extrait de Ambre de Luc Moës. Perpétuel. Avant que s'éventent en moi les vertus de ton souvenir, avant que s'amenuisent les ondes de l'émoi du face à toi, que s'altère ton rire d'ivoire frais, à pleines dents, gracieuse et solidaire, avant que s'estompe la ferme douceur des traits de ton visage, que la paresse réduise mon envie de t'immortaliser, avant que la meute des soucis quotidiens ne déchire ton esquisse, et raison du moment de grâce où tu as surgi dans cette futaie d'invités, avant qu'insouciante les hordes d'invités ne lacèrent l'aura de ta silhouette, avant, je m'accorde un moment de mémoire, dès après l'événement, pour que je décrive en lettres ciselées ce qu'il a forgé d'ouvrage en mon fort intérieur. Après l'accueil aimablement convenu de l'assistance, après la fraîcheur d'un vin italien ou catalan, le croquant des biscuits que le curieux grignotait d'une oreille, après quelques propos de ma part, j'ai perçu l'acuité de ton regard, la délicatesse dont tu le soutenais. Après un agréable échange pour m'en convaincre, après la question soudaine mais obligée de l'horaire, après l'accès à l'hémicycle de circonstances, les questions inaudibles des cadets de la brillante conférence qu'elles suscitèrent, après que j'ai quitté à regret cet eau-là d'un soir, sans qu'il m'ait été donné de te saluer, te dire au revoir, tu me tournais le dos. J'ai perçu qu'il fallait, à tout prendre, préférer le repos. Ainsi en a-t-il été encore une fois de ma passion, de cette sempiternelle et récurrente inclination du cœur à désirer retrouver l'autre qui me dise combien la vie a ses ingéniosités pour décréter finalement la victoire sur les injures de la mort. Elle a eu beau, la scélérate, m'atteindre d'odieuse façon, mais quand l'homme que je vois et que j'apprécie survint, justement pour m'amener à reconnaître que je l'estime, c'est que je suis sauvé. Il y a donc en moi, quelles n'eussent été mes avanies d'antan, tout le nécessaire pour célébrer un triomphe, le mien, puisque dès l'instant où je m'émerveille devant un superbe témoin de la vie, que je lui corresponds, que je communie à son approche sa franche et bonhomme sympathie, je me sens, moi, invité à revenir aux élans, à la confiance de mon adolescence. Il n'est pas indifférent de relever que cet émerveillement, combien de fois si heureusement répété, tient à chaque fois de l'événement unique. S'il est toujours unique, encore que ce soit avec un autre qui m'émeuve, c'est finalement moi, l'unique, le sujet le plus concerné, le plus comblé à la faveur de ces ravissements pour quel bonheur réitéré. Il est temps de ne plus me soucier du dernier témoin, de remonter le cours des âges et jusqu'à la tournure de ces enchantements-là, voire aussi de languir aux aguets du prochain qui sera, en somme, le seul à ne s'en point douter. Non, l'urgence s'impose de contenir en moi, à la foire des fortunes, l'ordre et l'équilibre de mes coups de cœur. Car, dépassant dont il faille s'inquiéter, le premier, c'est bien de moi-même, avant qu'advienne une splendeur, un Laurent, que sais-je, le magnifique. qui vous dit, étonnez-vous, que ces anges de lumière ne viennent alors allumer, à leur insu, au foyer de mon être, non tant une image affriolante qu'une conscience qui se ravise en leur visage pour qu'apparaisse en mon intime l'image promise de l'enfant que j'aurais dû être. Une sorte de Gavroche, au retour d'une vie astreinte, à l'éveil d'un cœur souverain, et enfin, bel et bien consolé.
De Franz Schubert, c'était un extrait du Quatuor numéro 15 en sol majeur, le deuxième mouvement. Sur RCF, dans cette émission Hors Piste, nous poursuivons notre écoute de la voix de Luc Moës, moine de Maritsou et poète.
Extrait de Ambre de Luc Moës. Amoroso. D'ores et déjà, j'aperçois à l'horizon des nuances de crépuscule. Quand j'aborde les sols désormais lunaires de ma solitude. Il y a bien eu jadis les clartés du midi, et dès le matin les aurores sincères, ou encore les soirées chaleureuses au foyer rougeoyant, les reflets au visage, les distances réduites, enrichies de mystères. Mais aujourd'hui, ce sont des lumières tamisées qui incitent à la démarche grave et avisée. C'est la prise en compte de davantage de traits et de détails. Je l'apprends maintenant à mes dépens. La vie est faite de détails. L'essentiel, lui, est unique, incomparable, libre, princier. Pour l'heure, c'est l'ordinaire, l'impromptu, le singulier, ou le multiple conjugué à l'infini, le souci, le désarmement, même parfois la broutille qui me requiert. Soudain, les voici donc mes détails importants. C'est l'attention aux aspérités d'un chemin devenu hasardeux parmi les humains. Des fois, je me retrouve contrarié d'en remarquer autant, chacun à sa façon menaçant, quand, tous ensemble, ils paraissent ourdir un complot à demi-mot. Mais tout l'art consiste, selon moi, à prendre le parti souverain de m'en émerveiller. Ils ont tous, d'ailleurs, un petit côté touchant. Oui, je gage qu'avec le temps, j'achève ainsi un immense domino, un jeu d'approche et de reconnaissance, le puzzle qu'en l'état je cirerai, comptant bien l'avoir à ce point vaste qu'il tienne d'une fresque. À mon ultime repli de circonstances, je l'accrocherai à des pans du paradis. C'est alors que j'en discernerai la trame de fond, les lignes de force, une vision globale, l'essentiel. Mais pour l'heure, c'est l'agencement des contraires qui me rend au bonheur. L'instant crucial parfois, en ce qu'il a d'immédiat. Convertir le pire en sourire. Ainsi, quand j'allonge ou je marque le pas, c'est finalement user de sagesse, puisque je vois davantage de choses, toutes empreintes de charme et de noblesse. Elles sont, à dire vrai, légions et myriades à les bien considérer. Contrairement où, dans le temps, c'était la fougue, la jeunesse, l'insouciance, l'ivresse de frayer avec tout le monde, où tout semblait beau et gentil aussi, mais à la nuance près que tout devait céder face à l'idée fixe que je m'en faisais. Faire des pieds et des mains pour faire d'un ego un héros. Actuellement, je distingue les uns des autres. C'est à pied mon chemin, quelque peu peinard, certes, puisqu'il n'y a plus à poser de préalable. Les mains, pour leur part, ont affaire, côté gratuité. Elles scandent élégamment mes transports, presque à la manière d'une danse discrète. Tout est devenu plus léger, un regard de respect et de prudence. Les êtres, sans qu'ils se le disent, évoluent ainsi à mesure de leur surprise à eux. À la faveur d'un rêve, au solde d'un sommeil, j'ai récemment vu surgir avec seule une amazone en selle trois purs sangs, le mort aux dents, la crinière au vent. Un effréné galop vers où je ne sais. Je leur ai fait le reproche d'aller trop vite dans leur course obligée, sans qu'ils laissent assez luire la brillance de leur croupe pressée. Ils s'acharnaient à charger l'inconnu qui leur échappait de partout. Beauté cavalière envers mon don d'admirer, même l'éphémère. Dès lors, revenons à plus serein ravissement. Celui des moments où l'on a baissé la garde, où les sens se saisissent des rênes du pouvoir. Ils lancent leur douce révolution. Ils libèrent d'abord le cœur de ses astreintes de toutes sortes. Ils brident et tiennent en respect la raison, car ce sont les sentiments qui corsent les saveurs de la vie et la forcent à goûter à temps le bien-être amplement. Voici donc venu l'âge du choix, où à chaque fois l'enjeu a sa face de lumière, fervente, ambrée, ocre et soyeuse. Il s'ensuit une assurance de ne s'y point tromper quand il convient d'y aller jalousement son destin, plus loin, goûter l'imprévu, le détail, dis-je, comme le dernier fruit de saison, surtout s'il était charnu, tacheté, goûteux à souhait. Oui, les repères en pareille occurrence paraissent de plus en plus plaisants, pourvu qu'on ne prenne surtout pas la peine de les toiser, de les fixer. Ils n'ont d'office que celui des indices. S'y attarder serait leur réservé par trop d'honneur. Ils se gonfleraient d'orgueil. Ils n'en demandent pas tant puisqu'ils s'ingénient à n'être que des signes parlants, charmants, clairs absolument, en vue d'une promesse selon laquelle, même dans leur luxuriante efflorescence, on s'ordonne, grâce à eux, amoureusement à l'essentiel, abouti en plein ciel. Au firmament.
De Johannes Brahms, c'était la Rhapsodie numéro 1, opus 79, en si mineur, par Radu Lupu.
Extrait de Ambre, de Luc Moës. Maîtrise. Rien moins qu'une note soutenue, et j'acquiesce à la vie. Il suffit d'un battement régulier sur fond de bien-être que je me sente concerné. C'est dire que j'aspire à l'ordre, à la douce force de la sérénité pour exister. Je sais, il y a les fébriles qui s'agitent, se dissipent, s'éclatent et s'éparpillent. Il y a les inquiets qui paniquent comme jamais en pleine vacuité. Il y a les futiles qui se fuient dans le bruit, le vacarme jusqu'à ce que la nuit les désarme. Les frivoles qui filent aux écoles buissonnières, il y a. Il suffit. Je reviens à mon goût de vivre, au souci bien à moi d'entendre un accord, un arpège. D'écouter comme jadis le roucoulement des tourterelles, dès qu'elles entendaient la charge confuse ou stridente de mes larmes. Elles en avaient ainsi raison de la plus irénique façon. C'était sans doute une amène revanche sur l'arbitraire de l'univers d'alors, sur les espaces déserts, où nul n'embrassait assez, ni ne m'enlaçait comme je l'eusse voulu. Néanmoins, après ce concours ingrat de circonstances, j'ai été ravi. Plus avant dans l'enfance, en allant au lit, d'entendre le murmure délicat et nostalgique d'une berceuse inspirée des mélodies qu'elle tenait, la gouvernante, de ses origines slaves. Leur onction, elle augurait un sommeil presque angélique avec alentour des lustres, des abat-jours orangés de factions. Les soirées me semblaient être des moments où j'étais enfin gorgé de quelque bien modeste opulence, mais de si bonne aloi. Délaissant les charmes élégants du chant, je me suis surpris d'apprécier ensuite et soudain le pouvoir du piano. Le professeur préféré interprétait la polonaise militaire de Chopin. Comment de marteaux et de cordes ainsi tendues, ramassées dans un meuble noir à queue, on osait impressionner les tympans, ensorcelés de pareilles harmonies. Le compositeur héroïque pleurait vivace son pays, sa Pologne natale, et sa mère manquée. Par après, les compassions de Pachelbel, les fureurs de Beethoven, les romances de Schumann, les franchises de Grieg, les audaces de Dvorak, autant de musiques qui m'ont séduit, intrigué, invité à remonter à l'origine créatrice de ces gages assurant le bonheur. En somme, j'incline à penser maintenant qu'en musique, comme en tant d'univers différents, l'énergie vitale qui la produit, celle des êtres qui l'agencent, est totale. Plus elle surgit en vrac, plus elle craque et rompt les rapports d'esthésie. Mais dès l'instant où la sève est conduite, plus la fleur est gracieuse. Plus le dépit écrase, plus l'élégie est plaintive, plus la joie est authentique, plus l'hymne est dynamique. Du reste, on comparerait aisément l'impétuosité des pulsions humaines avec la véhémence, disons, des volcans. Tout l'art consiste à la modérer, à l'épanouir. Qu'on songe aux mélodies contenues des classiques, de leur largo notamment, un largo de cello. Ils attestent en majesté davantage de la force maîtrisée, davantage qu'aux grandes orgues. La trompette saisit l'âme d'un frisson, car le souffle y est davantage retenu. La vie, en effet, ne qualifie que le défi lancé aux ferveurs faciles. Souvent, les maîtres négligent, à un pas vide, l'ampleur d'un immense magma. Hormis le cas parfois où ils soupçonneraient, ne fût-ce que leur fin, d'un filon fortuit.
Extrait de Ambre de Luc Moës. Antinous. C'est justement parce que tu es noir que tu me subjugues. Mais comment ressentirais-tu le tourment du blanc que je suis, quand tu n'as vu que des proches, depuis tes parents, qui portent en bien innocente majesté le ton le plus chaud de la création? Aux premières heures du monde où Dieu a séparé les eaux de la terre, et que de cet agreste limon, il a façonné la plus superbe des natures. Oui, tu es noir sans l'être, puisque tu es allé, bronzé, tanné comme le café. Es-tu noir ? C'est pour te distinguer sans nuance du blanc qui t'a nommé. Et pourtant, voyez la différence. Le blanc au teint de cire ou pire, sinistre comme les registres, blême ou papier mâché, au reflet de cendre quand il est fatigué, bouleversé. Tu tranches, toi, infiniment. Me voici donc si simplement confronté en ta candide fidélité au modèle dont Dieu lui-même a doté le paradis. Tu es là, campé, tel un Phébus surgit d'entre mes nuits pour qu'en Orphée, tu m'offres la fulgurante et fascinante lumière dont j'ai besoin pour aguicher mon désir et combler mon soupir. Tu es bien le premier à ne pas pouvoir te rendre compte de l'émerveillement que tu causes. Au visage, tes yeux adamantins en forme d'amande qui sacrent une bouche en lèvres d'orchidée, sous le pont suspendu d'un nez flanqué de deux joues qui se réclament tes rivalises à la fois d'une égale gentillesse. Quant au torse où trône sans doute au-dedans un cœur d'élite, il fallait bien le pourvoir de boucliers resserrés afin de se cabrer en cas d'une injuste agression qui déplaise au maître de maison. Pensez au souffle d'où qu'il vienne, de plus bas, des filets contenus d'abondance, d'un épigastre serein qui ne craint rien qui vienne l'oppresser des dessous plats, à tout jamais retenu. Est-ce le lieu de décrire, par pure gourmandise, ce qu'il en serait de l'échine, du verso, un dos nubien qui mérite, oh combien, le repos ? Un vase d'arômes vigoureux surgit d'une enceinte nouée à la taille. Sans s'attarder au rebond du siège, quoi qu'il en soit de son état. Le tout, nimbé, paré du plus superbe satin qui garde son imperturbable éclat, jusqu'aux doigts qui s'accrochent quelque part au bassin, à la ceinture, comme pour parer à toute éventualité, pallier alentour une surprise qui tournerait finalement à sa guise. Ainsi, cette photo me fouette de fabuleux fantasmes. J'ai peine à les ranger, les mettre hors de combat, voire les réduire. Mais alors, ce n'est pas mieux, c'est nuire à la vérité qui libère. Que faire ? C'est s'accommoder déjà de la distance pour qu'en acquiesçant à la patience, il me vienne, comme au soir d'une bien longue journée, au jardin d'Élysée, un zéphyr dans le cou qui dise tout. Et de ton irrésistible image et du possible don d'en décrire encore à souhait la séduction. Dès lors qu'il n'y ait plus ni bourreau ni victime, mais le proche et son intime. Sans plus de spleen, je te souhaite bon vent, par-delà les rapides de la Chine et l'Atlantique, leurs flux les plus emblématiques.
De Johannes Brahms, c'était la Rhapsodie, opus 79, numéro 2. Rhapsodie en sol mineur, sous les doigts de Radu Lupu. Sur RCF, dans cette émission hors-piste, nous poursuivons notre écoute de la grande voix de Luc Moës, moine de Maretsu et poète.
Extrait de Ambre, de Luc Moës. Finitude. Que de fois dès l'instant où un bonheur s'ordonnait, implosé en moi, j'ai voulu qu'il soit enchantement, voire même ravissement, mais surtout qu'il demeure absolument. Pensez au moment où la cigogne m'a déposé tout au-dessus de la cheminée, au foyer de mes parents. À cette minute-là, une seconde où je venais au monde, comblé d'autant de prévenance et de bien-être, puisque tout concourait au comble des consciences, à l'assurance d'une vie d'autant réjouie et partagée par plusieurs, au gage suréminent de faire la nique à la mort, tirer fort une langue bien rose au mauvais sort. Sans doute, était-ce davantage dans le sens de la vie d'envisager celle-ci non seulement féconde, à tant d'égards, mais encore la plus longue qui soit, quitte à veiller à ce que sur l'inexorable fin, on se ménage des affections qui distraient ou des services hospitaliers qui pallient d'un sourire les traîtres et vilaines maladies croque-mitaines. Les bons pères, disons, qui donnaient la religion, insistaient, eux, avec conviction, sur la vie éternelle. S'il arrivait donc qu'on en vienne à devoir mourir, il fallait se soucier, sans délai, de le faire en beauté, préparer son accès au paradis, où là, il serait éternel. De toute manière, même pour les méchants, l'enfer, quels qu'en seraient les affres ou les désagréments, il serait pour eux sempiternel. Depuis lors, d'honnêtes gens, au vu des singulières longévités de plus en plus ordinaires, se font une nouvelle idée du temps, à tel point que certains qui ont grandi selon l'idée de faire de leur vie un bouquet serré de serments et de fidélité, doutent aujourd'hui de l'obligation de vivre une vie entière sous un même engagement. Une précarité s'installe. Les repères s'altèrent, pâlissent. Si jadis les familles étaient le lieu de l'affection et de la tendresse partagée, il est des fois où ce sont les amitiés qui, aujourd'hui, les offrent plus sûrement sincères. Sans aller s'affliger de voir tourner la rose des vents, les sabliers s'aboucher plus gourmands, les commandes zapper les programmes, les esselés se cliquer d'innombrables amitiés par portable interposé, il reste à chacun de garder le contrôle de sa monture, au lieu de laisser courir ses enjeux à volo, jouer débonnaire son va-tout, puisqu'il n'y aurait plus à y faire. Pas davantage emprunter la pose des rapaces, jucher au plus haut perchoir, aperçu, et pour l'heure, fondre sur l'occasion d'un lièvre égaré de sa garenne, l'emporter dans leur serre pour s'en faire un impromptu festin, là, plus loin, sur le pouce. Revenu de ce parcours, me voici un homme averti. En sorte, qu'en toute circonstance où l'ampleur de l'émoi plaide en faveur de la durée, je lui préfère l'intensité. Aussitôt, je négligerai autant les outrages que les suffrages du temps, pour me féliciter d'être ici, et maintenant, un fruit empli, dûment mûri, d'éclat patent de pérennité pourtant.
Extrait de Ambre de Luc Mouès. Adresse. Vois-moi, Jésus, comme tu m'as transfiguré. Je n'ai plus Dieu pour les seules évidences, puisqu'à te voir là, vivant, j'y puise des larmes. Je n'ai plus de nez par où je respire l'ordinaire, mais pour élire le seul parfum qui te revienne. Je n'ai plus de mains pour une somme d'ouvrages, alors qu'à présent je te les réserve en caresses. Je n'ai plus d'ouïe qui m'enchante et m'affole. Quand ta voix et me charme le cœur et me guide, je n'ai plus de bouche qui me nourrisse encore, car ma seule faim, c'est te couvrir de baisers. Crois-moi, j'ose avec toi la métamorphose.
Beethoven, c'était un extrait du troisième quatuor, opus 59, dit Razumovsky.
Extrait de Ambre, de Luc Mouès. vois-tu ? Je n'en ai vu que trop peu pour me permettre de la décrire avec exactitude. Encore, quand écrire une seule, je les aurai toutes décrites à la coque près. Mais mon propos ne consiste pas à décrire, finalement. Je souhaite davantage comprendre l'âme. Certes, pour comprendre une tortue, il faut la considérer dans son apparence, qui révèle déjà tant de qualités, des aptitudes, mais aussi des handicaps. Il en est d'ailleurs ainsi aussi dans l'approche de l'humain. Au vu du visage, de la silhouette, de la démarche de Monsieur Tout-le-Monde, on s'accorde à l'estimer ou à le craindre, selon le cas, à s'en moquer quelquefois, secrètement ou même à découvert. La tortue, à mes yeux, doit fort probablement s'étonner du regard qu'on lui décoche, puisqu'il ne faut pas longtemps pour qu'on se dise « Qu'avait-elle donc besoin de porter une telle carapace ?» De se mouvoir avec des pattes en escarpin de rocaille, un zeste de queue tellement mesquin. Et puis, elle n'a pas de cri, que je sache. Sans doute n'a-t-elle rien à dire, puisqu'elle est modeste, tout à l'intérieur. Elle s'avance, taciturne, ne laissant voir que le damier de sa coque, comme un manteau d'huître. N'est-elle pas amphibie ? Au rythme de sa démarche, on imagine qu'elle ménage sa réponse. Est-elle à quelques pas plus loin, avant même qu'elle n'ait encore lancé un brin de réponse, on en vient à s'interroger sur sa chance d'être bel et bien heureuse en sa secrète condition de recluse. La coque l'habille. Oui, la coque, c'est elle. Avez-vous déjà rêvé d'une tortue sans sa maison sur le dos ? C'est son charme, son mode de présence et parfois sa combine. Dès lors, à juger des choses dans leur ensemble, la tortue ne manque de rien, ni plus ni moins. Elle fait semblant, dirait-on. Ce qui lui importe avant tout, c'est d'avoir en soi de l'ordre. Et c'est vrai, tout chez elle et dans l'ordre, et à l'endroit, quand elle garde sa maison par-dessus, comme par bon sens, car l'imaginer sans dessus-dessous, c'est lui infliger l'injure, la torture parfaite, à l'envers, ébahie, stupéfaite. Elle en mourrait. Les humains en rient sans doute de cet aplomb de la tortue, puisqu'ils ne s'embarrassent pas d'être, eux, des fois, la tête en bas. Ça ne leur fait pas grand problème, puisque souvent, ils sont vides, sans consistance. Ils n'ont pas de poids. Ils sont sans défense et, partant, si portés à l'agressivité. Ils se pressent d'ailleurs, même sans savoir où ils vont, à condition de pouvoir se fuir. S'ils vont à l'eau, ils perdent pied. Pour se plaindre, ils disent qu'ils en ont plein le dos. Ce qui, pensez donc, fait sourire la dite tortue. « Mais voyez-moi, dit-elle, je suis naturelle au possible. Je découvre franche et sincère, par tous les temps, le tout de ma nudité, sans perdre pour autant mon univers d'intériorité. Ne cassez pas du sucre sur mon dos. Comptez plutôt sur l'endurance de mon cœur, que je garde jalouse au coffre, entre ma coque et mon blason. Cette humble résilience douce et ferme me conseille de n'en rien montrer, sinon au ras du gazon. C'est ainsi que je cache mes quartiers de la devise accompagnée « ni frousse, ni secousse ».
Nous avons écouté, pendant cette heure-ci, la voix de Luc Moës et nous venons de terminer sur un sourire, le sourire qu'a fait naître en nous la tortue. Merci à vous, Alain Louis. Merci à vous, Lorenzo Godot.
Avec plaisir.
Merci.
Et c'était un plaisir partagé, bien entendu. Alors, merci à vous, Luc Moës. Mais comment peut-on se procurer vos livres? Dites-nous.
Mais vous pourrez toujours m'écrire à mon adresse postale, Abbaye de Maretsou, 5537, Denée, ou alors à mon adresse courriel, F comme frère, L comme Luc, M comme Moës, @maretsou.com.
Merci à vous tous. À la présentation et la technique, c'était Pierre-Paul Delvaux. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Et en vous disant au revoir, je vous laisse une fois de plus avec Schubert, avec ce quatuor numéro 12 avec lequel nous avons commencé et avec lequel nous terminons en beauté. Au revoir, à bientôt. Thank you.